Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's eat in San Peter House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est en Irak que nous allons, où les coupures d'internet toutes récentes tiens, font craindre un retour des violences aux manifestants qui n'ont pas lâché la rue depuis le 1er octobre en dépit des tirs, en dépit des menaces, en dépit même de l'Iran. Et nous allons décrypter tout ça dans une minute. Le bruit du monde est au Venezuela où on se bat toujours contre des coupures d'électricité devenues incessantes. Le bruit du monde, la suite, c'est l'Algérie et son pétrole, des Éthiopiens en Arabie Saoudite et une décharge au Sénégal. 18h50, le cinéma en VO et Eva Béton qui a vu le Costa Gavras, Adult in the Room. Et puis 18h55, le monde à l'envers. Et Franck Madvon au Mexique qui n'arrive pas décidément à se débarrasser de ses cartels. Le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes notamment maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On a, j'ai envie de dire qu'on a presque découvert qu'il y avait une autre place Tahrir, au fond, dans ces pays-là, qu'on a vu devenir l'épicentre du mouvement irakien, donc la place Tahrir de Bagdad. 280 morts tout de même, des milliers de blessés. Je voudrais qu'on commence par nous ramener au 1er octobre, quand les choses ont commencé. Les manifestants sont plutôt jeunes. Pour la plupart, ils sont chômeurs, et on comprendra très vite pourquoi, parce que beaucoup de jeunes gens sont au chômage en Irak. Est-ce qu'il y a une étincelle, une allumette, ou au fond, même pas, en fait?
Si, il y a eu une étincelle. Il y a eu la mise à l'écart de l'homme qui est considéré par beaucoup d'Irakiens comme le héros de la lutte contre l'État islamique. Et donc cet homme a été mis de côté. Et donc ça a suscité une réaction de la part d'une grande partie de la population irakienne qui s'est dit, mais pourquoi cet homme qui a fait le job, qui a été très actif dans cette lutte, contrairement aux autres, et qui est mis de côté? Et là, ça a été vraiment l'étincelle qui a fait que le mouvement de protestation a commencé. Parce qu'il y avait une accumulation, L'Irak vit en situation dramatique depuis 1980, si on remonte qu'à là, qui est la première guerre Irak-Iran. Et depuis 80, il y a eu conflit sur conflit, invasion ou pénétration d'acteurs extérieurs. Et donc depuis 80, c'est un pays, finalement, qui vit drame sur drame et avec une économie complètement dévastée.
Alors, vous le disiez, effectivement, drame sur drame, donc ras-le-bol après ras-le-bol, manifestation après manifestation, parce que Dieu sait que c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui fait que cette fois, ça prend ces proportions-là et surtout que ça prend, même tout court, à l'échelle du pays tout entier.
Alors c'est toujours l'interrogation de savoir quel est véritablement pourquoi. Alors je pense que l'accumulation quand même est absolument énorme. Il faut peut-être revenir aux élections de mai 2018, les élections législatives, qui étaient des élections donc, alors avec beaucoup d'abstention, mais quand même une nouvelle chambre où là, un certain nombre d'Irakiens se sont dit, bon ça y est, on a mis derrière nous, on a fini la période invasion américaine de l'Irak qui a tout cassé, on a fini la lutte contre l'État islamique, on fait des élections et donc on a de nouveaux représentants et maintenant, ça y est, enfin, on va s'intéresser à nos problèmes. Et nos problèmes, c'est quoi? Ce sont des problèmes économiques et sociaux. Faire en sorte que ce pays, qui est un pays extrêmement riche, à la différence d'autres pays de la région qui connaissent des difficultés, l'Irak est un pays riche avec du pétrole où il y a des pannes, des coupures d'électricité tout le temps, il n'y a pas d'eau, des problèmes d'infrastructure. Et donc là, c'est vraiment le sentiment que depuis donc mai 2018, cette nouvelle chambre, qui n'a pas été capable de prendre les problèmes à bras-le-corps, alors que, je le répète, ce pays a des moyens financiers, normalement, pour pouvoir le faire.
Ça veut dire qu'elle s'est aussi, elle s'est retaillée, retricotée une vraie société civile, cette société irakienne qui est là, qui proteste, on voit des syndicats, on voit des étudiants, on voit même des écoliers. Donc on a aussi l'impression, vous m'arrêterez si je me trompe, que quelque chose s'est restructuré, en fait, qui peut emmener justement à des manifestations de ce type.
Oui, alors il me semble que déjà, justement, dans les élections législatives, il y avait déjà cette volonté de sortir du sectarisme, finalement, qui a pourri et qui a vraiment rendu extrêmement difficile la vie dans ce pays. Et il y avait déjà les ferments depuis quelques mois, qu'on voyait un peu émerger. Et là, c'est vrai que ce qui est très, très, très fort et significatif dans ce mouvement, c'est que ce que disent les manifestants, rendez-nous l'Irak, rendez-nous notre pays. Et c'est quand même un mot d'ordre extrêmement fort, qui va complètement au-delà de toutes les appartenances confessionnelles, communautaires. Et là, il y a un parallèle avec le Liban
bien
intéressant.
Bien sûr, et on ira d'ailleurs aussi au Liban faire le parallèle. Mais effectivement, vous avez raison, on leur a même imposé ce découpage confessionnel au fond, pensant qu'on achetait la paix civile avec ça.
Absolument, avec l'idée de se dire, puisque c'est un pays qui s'est effondré ou qu'on a cassé au lendemain de l'invasion américaine de 2003, on a mis en place un système selon lequel le président de la République est un kurde, le président, le premier ministre est un chiite, le président du Parlement est un sunnite. Et donc, tout le monde va être content, tout le monde va avoir de quoi redistribuer aux siens. Et en fait, les Irakiens ne veulent pas ça. Et même si l'État irakien est un État failli aujourd'hui, bien sûr, mais on voit que de la part des Irakiens, il y a une demande d'État. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une demande d'État? Ça veut dire un État qui protège, un État qui fournit tout ce dont a besoin un citoyen, et donc des infrastructures, d'électricité, l'éducation, un système de santé, ce qui n'existe pas aujourd'hui, avec en plus ce que les Irakiens mesurent très bien, c'est que la clique au pouvoir se partage cet argent, et là de l'argent, il y en a de par ses richesses, et donc toute cette richesse est captée par les élites au détriment de la population. Et donc là, ras-le-bol, et ce qui est incroyable aujourd'hui dans ce mouvement, c'est qu'effectivement ça transcende les appartenances confessionnelles communautaires, les âges, les régions. Ce mouvement est à Bagdad, mais il est aussi dans le sud. Alors, c'est vrai qu'aussi en Irak, on assiste maintenant, depuis des années, à régulièrement des manifestations qui à chaque fois sont localisées. Il y a eu à Bassora l'été quand il y avait plus d'eau avec 50 degrés. Mais là aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce mouvement, on le retrouve à l'échelle du pays.
Et c'est ce qui nous rapproche aussi du Liban dont vous parliez. Débarrassez-nous de cette clique, c'est aussi ce qui s'est dit. Sauf que la réponse est très très différente. On sait où ça en est pour l'instant au Liban. C'est encore très volatile. Mais enfin, il y a eu Hariri qui a décidé de partir. Enfin, il y a eu des choses qui ont été très fortes. Là, on tire et on tire à balles réelles. Est-ce qu'on est... Alors, on a tiré. D'ailleurs, on a arrêté de tirer. Puis il y a une crainte aujourd'hui que ça recommence. Est-ce qu'il y a une vraie panique de la part du pouvoir aujourd'hui en Irak, qui ne sait pas prendre ce mouvement-là, de toute façon.
Oui, je crois que
il ne sait pas d'où il vient non plus, peut-être.
Les deux pouvoirs, que ce soit en Irak ou au Liban, sont paniqués par la rue, parce que quand la rue se mobilise de la sorte, en transcendant tous les clivages ou toutes les parties de la société, pour un pouvoir. Alors l'Irak, effectivement, il y a depuis des années, des dizaines d'années dans ce pays, une tradition de violence terrible. Donc effectivement, l'armée a été appelée pour réagir, et elle a réagi. Donc on est au moins à 300 morts en Irak, ce qui est absolument catastrophique, mais dramatique. Mais ce qui est incroyable, c'est que les jeunes continuent à sortir dans la rue en dépit de cette violence. Donc, ce qui montre bien que le pouvoir est complètement démuni. Et il y a un autre élément très important aujourd'hui en Irak, et c'est là où ça va compliquer les choses, c'est la volonté des manifestants, des Irakiens, de dire on ne veut plus de la tutelle iranienne. Et ça, c'est un élément extrêmement important aussi dans la compréhension de ce mouvement.
Alors là, effectivement, et on a même vu les Iraniens sortir du bois, ce qui est quand même rarissime, qui eux aussi ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Ça veut dire quoi l'Iran en Irak aujourd'hui? Quand il dit qui cornaque un peu tout, ça veut dire quoi, cette présence-là, concrètement, pour un Irakien?
Pour un Irakien, ça veut dire qu'un certain nombre de responsables sont très liés à l'Iran, qu'un certain nombre de décisions sont prises au niveau du pouvoir.
Donc,
en concertation.
Forces de sécurité parallèles,
absolument,
etc.
Les milices. Vous savez que le grand problème aujourd'hui de l'Irak, c'est ce qu'on appelle la miliciarisation du pays. Et donc, le rôle de ces milices, dont certaines d'entre elles, sont complètement dirigées par Téhéran. Et on a vu le fameux Qassem Soleimani, qui est l'homme fort de la brigade Al-Quds iranienne, venir déjà à deux reprises en Irak pour être sûr que le premier ministre, avec lequel ils ont des liens privilégiés, même si celui-ci s'était présenté comme un indépendant, il est quand même très dépendant de la relation avec l'Iran. Et pour l'Iran, ce qui est très important, et pourquoi l'Iran ne lâchera pas, et c'est là où le danger peut venir, c'est que pour l'Iran, le dernier pays avec lequel il peut continuer à travailler, à commercer en
C'est l'Irak. Pour ça que c'est important, à cause de l'embargo, le seul voisin qui compte réellement, c'est vraiment l'Irak.
Et c'est pour ça que l'Iran n'est pas en mesure de pouvoir accepter. Et imaginez que la révolution ou ce mouvement débouche sur quelque chose en Irak, c'est-à-dire une remise en cause du système. Le parallèle en Iran, lorsque l'on sait les conditions de vie dramatiques de la population iranienne aujourd'hui en raison des sanctions, l'Iran qui a déjà vécu des mouvements de contestation de la part de la société civile, des jeunes qui en ont marre de ce système, de la pression de ce pouvoir incarné par les religieux, ça peut évidemment donner des idées et faire en sorte aussi que l'Iran bouge. Et donc pour les Iraniens, c'est le pire des cauchemars.
C'est ça la vraie crainte iranienne. Est-ce que c'est plus une crainte économique ou une crainte politique ou
les
c'est effectivement les deux à la fois? Le premier danger pour les Iraniens, c'est quoi?
Premier danger, c'est de perdre l'Irak, et c'est toute la stratégie d'influence de l'Iran dans la région. Puisque toute la stratégie... Qu'est-ce que c'est l'Iran? Pourquoi l'Iran est aussi fort aujourd'hui alors que c'est un seul pays? C'est parce qu'il a des relations privilégiées avec l'Irak, avec Damas, avec le Liban à travers le Hezbollah, et que donc si l'Irak connaît une évolution en sortant de l'orbite iranienne, ça veut dire que toute cette influence et donc tout ce qui fait la force de l'Iran est en train de s'écrouler. Et donc pour les Iraniens, non seulement il y aurait cette perte d'influence, mais il y a la la situation économique dramatique. Donc l'Iran se retrouve dans une situation encore plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'il y a encore un parallèle à faire avec le Liban aujourd'hui, puisqu'il y a aussi des manifestations contre le Hezbollah qu'on pensait qu'il y a encore un autre rôle au Liban, notamment face à Israël, mais qu'on pensait un peu intouchable pour ça. Et finalement non, ce Hezbollah-là n'est pas intouchable pour la rue libanaise.
Il y a un tabou qui est tombé au Liban qui est absolument incroyable, c'est de voir ces manifestations dans les bastions de Hezbollah, que ce soit à Tir ou à Nabatieh, de voir les manifestants dire on n'en peut plus, comme si Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah, n'avait plus cette même aura qui faisait que les gens n'osaient pas s'adresser à lui. Et derrière, effectivement, c'est aussi la remise en question du rôle de l'Iran. Et là encore, pour l'Iran, ce qui est en train de se jouer là est extrêmement difficile, parce que ça le met vraiment en situation d'extrêmement faiblesse. Et en même temps, si les manifestants aujourd'hui au Liban et en Irak se permettent de dénoncer l'influence iranienne, c'est parce qu'ils savent que le pays est aussi en train, évidemment, de s'affaiblir considérablement.
Alors, vous l'avez dit, pour l'instant, l'Iran soutient le Premier ministre qui est sur une jambe. Enfin, tout ça n'a plus vraiment de sens au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que les tirs, notamment sur les manifestations, c'est aussi l'Iran qui dit « allez-y à balles réelles, les amis » Et est-ce que ça veut dire aussi qu'ils peuvent aller encore plus loin pour essayer d'étouffer ce mouvement ?
Oui, je pense que dans la décision de la répression du mouvement, l'Iran n'est sûrement pas loin, puisque la présence, je le répète, de Qassem Soleimani à Bagdad à deux reprises est quand même lourde de sens. C'est pour dire au Premier ministre, ne lâchez pas et c'est pas le moment de flancher. Nous, on a besoin de vous et il faut tenir le mouvement pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc c'est vrai que on peut craindre en tous les cas un durcissement de la répression du gouvernement, à moins qu'à un moment aussi le pouvoir irakien se rende compte qu'il va falloir quand même sortir de ce système de cette dépendance iranienne, et que le gouvernement ou le Premier ministre ne peut pas prendre le risque d'aller complètement à l'encontre de ce que veut cette population et de ces jeunes qui sont dans la rue. Parce que là, il y a des écoliers, et il y a beaucoup de jeunes femmes. Enfin, il y a un mouvement quand même d'une spontanéité qui est quand même assez impressionnant.
Et alors, en même temps, les manifestants demandent la dissolution du Parlement, ils demandent un gouvernement de transition, ils demandent même des élections sous l'égide de l'ONU. Enfin, c'est vraiment du passé, faisons table rase. Mais est-ce qu'il y a de quoi organiser tout ça en Irak aujourd'hui? D'abord, organiser de toute façon d'une manière générale, organiser vraiment des élections, et surtout, est-ce qu'il y a des candidats autres que tous ceux qui sont déjà de toute façon pieds et poings liés avec les groupes dont vous parliez à l'instant?
Alors, ce que je crois, c'est que dans toute société, il y a des personnalités qui sont là, qui existent. Simplement, on les a jamais laissés s'exprimer, puisque de toute façon, tout ça était extrêmement contrôlé avec des partis, avec ces milices. Je reviens au rôle des milices en Irak, qui est absolument essentiel, qui évidemment ne laisse pas beaucoup de place à des expressions politiques d'autre nature. Donc, le piège dans ce genre de système, c'est comment organiser des élections trop rapidement. Si vous le faites trop rapidement, vous ne laissez pas...
On a les mêmes. Voilà. Qui reviennent.
Et donc, toute la question, c'est comment organiser une transition avec éventuellement ce qui est demandé au Liban, un gouvernement de technocrates, avec des pleins pouvoirs pour vraiment essayer de prendre à bras-le-corps les questions économiques qui, pour avoir des retombées sociales, pour que les populations se rendent compte des améliorations à apporter à leur quotidien et permettre l'organisation politique d'autres personnalités politiques émerger et pouvoir offrir autre chose en termes politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban.
Et vous pensez qu'ils se parlent entre manifestants irakiens, manifestants libanais, justement?
Bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça circule, il y a énormément. D'ailleurs, on a vu, après les premières grandes manifestations à Beyrouth, on a vu des très jeunes et des jeunes filles manifester à Bagdad comme si ce qui s'était passé au Liban avait donné aussi envie ou montré que quelque chose était possible. Donc je crois que, évidemment, alors là c'est le côté sympathique et positif des réseaux sociaux, c'est que tous ces jeunes sont évidemment connectés, passent leur temps à discuter.
Bah, c'est pour ça que l'Irak est en train de couper les réseaux internet, évidemment.
Oui. Absolument, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un danger de voir ces relations et puis ces mots d'ordre et cette façon de dire. En plus, là, pour le coup, ils veulent la même chose. Ils veulent, dans un cas, être libanais, l'autre cas, être irakien. Il y en a vraiment marre d'être sunnite, chiite, kurde ou je ne sais quoi. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment cette demande d'État. Je crois que c'est très important de comprendre cette demande d'État et tout ce que veut dire la demande d'État dans des sociétés qui ont été privées de l'État depuis maintenant des dizaines d'années.
Est-ce que vous diriez, Agnès Levallois, qu'on est en train de vivre un nouveau printemps? On est en mois de novembre, donc c'est un peu compliqué, mais une nouvelle vague il y a beaucoup de similitudes avec la vague de 2011, et en même temps il y a quelque chose d'encore différent, une marche dessus effectivement qui dit stop au système, stop à la corruption, stop à ce clientélisme là. Donc est-ce qu'on est vraiment dans une deuxième vague là, selon vous, ou pas?
Oui, regardez ce qui s'est passé au Soudan. Au Soudan, il y a eu une transition.
Le pays exemple en ce moment, le Soudan.
Oui, ouais. Une transition quand même en douceur avec une armée, des services omniprésents qui terrorisaient la population, et il y a une négociation qui s'est faite. Alors on verra ce que ça donne, mais pour l'instant en tous les cas, la transition transition au Soudan
ils
est absolument,
le gouvernement de transition.
Elle est remarquable. On n'en parle pas parce que comme si ça nous gênait de voir qu'il y avait un endroit où ça pouvait quand même fonctionner.
Si on en parle ici.
Non, mais de façon générale. Et l'Algérie, regardez ce qui se passe en Algérie. Depuis février, tous les vendredis et les mardis, des manifestations pour l'instant dans le calme. La grande différence pour l'instant, à part l'Irak avec cette répression terrible, c'est qu'il n'y a pas utilisation quand même de façon trop dramatique de la force armée. Au Liban, il n'y a pas eu pour l'instant de morts. Enfin, il y a eu à la marge, mais l'armée n'est pas intervenue. En Algérie, pour l'instant, l'armée n'est pas intervenue. Donc, c'est vrai que toute la question, c'est cet acteur, hein, les milices dans le cas de l'Irak, l'acteur militaire et les services qui sont quand même des acteurs omniprésents dans toutes ces sociétés. Donc, on est effectivement là aujourd'hui dans une nouvelle phase. Et je pense que les manifestants aussi ont tiré les enseignements ce qui s'est passé en 2011. Et donc, se rendant bien compte que la militarisation conduisait obligatoirement à une impasse total, et donc faut essayer de l'éviter dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Je le répète, là, il y a eu quand même des drames en Irak depuis le début de ce mouvement au 1er octobre.
Et il n'est pas dit qu'il n'y en aura pas encore,
absolument,
d'ailleurs, mais on suit ça en tout cas très très près, ici et au Liban, où vous allez d'ailleurs, Agnès Levallois, donc vous revenez, où vous allez, donc vous viendrez nous raconter à l'occasion, ce sera
plaisir.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
Le 18-20, la suite, c'est le bruit du monde et c'est au Venezuela qui n'en peut plus. Des coupures de courant incessantes. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Et Amélie Perrier, vous nous emmenez dans une décharge.
La plus grande du monde, l'une des plus grandes du monde, près de Dakar, pour le tournage d'un clip de musique.
Le cinéma en VO, Eva Béton. Au fond, Costa Gavras est en train de renouer avec ses premières amours.
Oui, et vous vous souvenez de la chèvre de Monsieur Seguin?
Oui,
au matin,
peu.
La chèvre est mangée. Eh bien, c'est l'histoire des négociations entre l'Europe et la Grèce.
Allez, le monde à l'envers. Et Franck Madvon, Franck, bonsoir.
Bonsoir,
le
Fabien,
Mexique,
bonsoir à tous.
Franck, englué dans ses cartels.
Oui, et cet échec sur toute la ligne pour le président AMLO, alors qu'un nouveau drame a montré cette semaine la violence des cartels.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il fait un petit tour par là, tiens, par Brighton. She's my sunshine, signé Céleste.
Time my hands in the clouds. She saves me from my
est au Venezuela ce soir. On est content d'y retourner dans ce pays. Ça faisait longtemps, même si c'est pas pour de bonnes nouvelles. 6 mois après les grandes coupures nationales, l'électricité va et vient toujours. Depuis le printemps, des régions entières du pays sont privées d'électricité, parfois 16 heures par jour, parfois plus, parfois moins. Le gouvernement assure qu'il s'agit d'une guerre électrique des États-Unis pour affaiblir le pays, mais l'opposition assure de son côté que tout cela s'explique par le manque d'entretien du système électrique. Caracas, jusque-là, avait été relativement épargné. Mais là aussi, on s'agace de voir les coupures se multiplier, devenir quotidiennes. C'est le reportage qu'on suit ensemble, celui de Benjamin Delisle.
5 jours sans luz, la calle Negrita de la Florida. Y son adyacentes, 5 jours.
Dans le quartier de Los Palos Grandes, l'électricité vient de revenir après plus d'une heure de coupure. Béatrice, une quadragénaire qui vit là, en profite pour aller faire ses courses. Elle a les traits tirés, dit n'en plus pouvoir.
Il y en a presque tout le temps. Ça dure 2, 3 heures, parfois 6 heures sans électricité. Ça abîme l'électroménager, le micro-ondes, le frigidaire, la clim, la télévision. Ça coupe le téléphone, on ne peut plus communiquer. Il se dit que la prochaine grande coupure durera très longtemps. Difficile de distinguer le vrai du faux.
Non loin de là, le gérant d'un petit café réinstalle des tables sur sa terrasse. À chaque coupure, il doit fermer car il ne peut plus ni servir ni encaisser.
Moi, ce que je vois ici, c'est que la tendance est à la hausse. Le rationnement s'empire au lieu d'améliorer les choses.
Selon Victor Poleo, professeur à l'Université centrale du Venezuela, il ne passe plus un jour sans qu'un quartier de Caracas soit privé d'électricité. Cet ancien vice-ministre en charge du secteur électrique accuse aujourd'hui le gouvernement d'avoir détruit les infrastructures électriques par négligence.
On parle d'un déficit de 30% de l'offre électrique. Normalement, l'offre est à la fois hydroélectrique, grâce au fleuve Caroni, et thermoélectrique au nord du Venezuela. Mais aujourd'hui, le Caroni est la seule source qui fournit le pays en électricité.
Selon lui, les centrales thermoélectriques ne tournent plus faute d'entretien et de combustible, du fait notamment de l'effondrement de la production pétrolière. S'il y a quelques mois, le rationnement forcé de toute une partie du pays suffisait pour alimenter Caracas, il estime que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
D'abord parce que le système se dégrade de jour en jour. Ensuite parce qu'il est impossible, du point de vue électrique, de synchroniser les machines du Caroni avec la demande qui fluctue. Ils opèrent avec l'immense peur que le système tombe à nouveau. Pour éviter cela, ils réduisent sans cesse la charge électrique.
Concrètement, cela revient à priver des quartiers entiers d'électricité. C'est le cas dans plusieurs zones de Petare, considérées par certains comme le plus grand bidonville d'Amérique latine. Entre deux rues exiguës, un petit marché improvisé attire du monde avec des prix défiant toute concurrence. Milady a survivre la moitié du temps sans courant.
Ça va, ça vient, ça va, ça vient, comme dans plein d'endroits. Là, maintenant, ça fait 24 heures qu'on n'a plus d'électricité.
Ici, on s'habitue à vivre sans courant et sans eau, sans frigidaire non plus pour conserver les aliments. Les sacs de Fernando, un autre riverain, sont remplis de conserves.
Moi, j'essaye d'acheter surtout des produits non périssables, du riz, de la farine, des œufs. Tu n'as pas besoin de les réfrigérer et ça se conserve un peu.
Pour les plus riches, la parade consiste à s'acheter un générateur électrique. Dans le quartier plus cossu de Chacao, un concessionnaire de motos affiche en gros sur sa vitrine « Ici, on vend des générateurs ». Carlos, le propriétaire, s'y est mis juste après les grandes coupures du mois de mars.
Le marché a énormément grandi. Non seulement il y a beaucoup de gens qui achètent, mais surtout il y a de plus en plus de magasins qui en proposent.
Alejandra vit dans un des quartiers chics de la capitale où les générateurs sont légion. Le mur qui entoure sa résidence est surmonté de barbelés et de fils électriques. En attendant d'acheter le sien, elle profite du générateur de son voisin à chaque coupure.
Pour l'instant, il nous passe un câble. La résidence a 3 maisons. Avec ça, je branche mes 2 frigidaires et 1 multiprise pour recharger les téléphones. C'est devenu une nécessité.
Le problème, c'est que lors des coupures généralisées, l'essence qui alimente les générateurs vient aussi à manquer. C'est un serpent qui se mord la queue, à l'image de tout le fonctionnement énergétique du pays, comme le résume Victor Poléo.
Sans industrie pétrolière, il n'y a plus d'industrie électrique. Et sans électricité, les raffineries et la production de pétrole ne tournent plus.
En attendant, les Vénézuéliens vivent dans l'angoisse d'une nouvelle grande coupure, le stress de revivre le chaos du mois de mars qui a vu tout un pays s'éteindre brusquement.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Inter. Merci beaucoup. Le bruit du monde quand il passe sous les radars, ça donne ça. Amélie, votre bruit du monde est une manifestation en Algérie ce soir, mais une manifestation avec un mot d'ordre un peu différent de ces derniers mois. Cette manifestation défend le pétrole, l'or noir du pays.
Oui, ces Algériens protestent contre la loi hydrocarbures. L'examen du texte a débuté hier au Parlement et l'opposition se montre virulente. La loi est accusée de brader la principale richesse de l'Algérie. Écoutez ce manifestant au micro d'Euronews.
Faites savoir au peuple algérien que les politiques ont vendu les biens de notre pays, des générations futures, de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils jouent avec l'Algérie et c'est bien.
Voilà, les manifestants qui demandent depuis le printemps la fin du système Bouteflika se rassemblent désormais sous ce nouveau mot d'ordre, résister à la loi hydrocarbures et faire tomber le Parlement qualifié de traître qui veut vendre à bas coût les hydrocarbures algériens aux multinationales. En fait, la loi réforme le cadre juridique et la fiscalité du secteur pour favoriser les investissements étrangers, dit le pouvoir. Car les étrangers n'ont cessé de se détourner du pétrole et du gaz algérien ces 15 dernières années. La production baisse. Mais la révolution en cours en Algérie, la défiance envers le pouvoir attise aujourd'hui la colère et la méfiance sur cette richesse qui finance 60% du budget national mais dont la population se sent privée.
Allez, une autre route migratoire, Amélie, c'est une route dont on parle très peu.
Oui, pourtant, l'exode de centaines de milliers d'Éthiopiens dont l'Eldorado s'appelle l'Arabie Saoudite. Un périple dantesque qu'ont suivi le reporter Charles Emtaz et le photographe Olivier Jobard. Ils en ont rapporté un film, Yémen à marche forcée, que vous allez pouvoir regarder sur Arte le week-end prochain. Entre Djibouti et le Yémen, où souvent le voyage s'arrête, le Yémen pays en guerre, ici à Aden.
Ceux qui parviennent jusqu'à la grande ville du sud atterrissent le plus souvent dans la rue. Ce sont les recalés de l'exil. Ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'en Arabie Saoudite, à 1000 km d'ici, et ne peuvent non plus rentrer en Éthiopie. Pour ces Oromo, le chemin de l'exode finit en cul-de-sac.
Vu d'ici, dit cet Éthiopien dans le documentaire, notre pays est un paradis perdu. Au Yémen, on crève de peur et de chaud. Alors Charles Emtaz nous raconte une histoire terrible qui commence dans les montagnes rocailleuses entre l'Éthiopie et Djibouti, à pied avec les Oromo qui fuient l'Éthiopie. Ils ne savent pas encore les dangers, les passeurs qui vont les réduire à l'état d'esclaves, la torture, la faim, les chiens errants, la fatigue et l'impasse donc au Yémen, l'un des pires conflits du moment dont ils se retrouvent otages. Par centaines de milliers, les Éthiopiens partent pour la richissime Arabie Saoudite sans y arriver bien souvent par une route migratoire 10 fois plus empruntée que la Méditerranée, dont on parle bien davantage dans nos journaux. Ce sera un reportage à voir sur Arte ce samedi, le 9 novembre à 18h35.
C'est bien noté. Pour terminer, Amélie, la plus grande décharge du monde, peut-être source d'inspiration pour les artistes.
Pour la chanteuse Suzanne, son dernier titre s'appelle « Il est où le SAV ?». Le clip que l'on vous mettra en lien sur le site franceinter.fr a été tourné à Mbeubeuse, au Sénégal.
Sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique.
Voilà, Suzanne, elle se décrit comme une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. Elle vient d'Avignon et son dernier clip mis en ligne il y a quelques heures ne peut pas être plus proche d'une réalité effrayante. L'une des plus grandes décharges à ciel ouvert sur la planète, Mbeubeuse, près de la capitale Dakar, c'est 114 hectares de déchets. Et la chanteuse raconte que l'idée lui est venue en fait en Chine, où la pollution de l'air l'a terrifiée, comme la vision d'un futur apocalyptique. Alors par association d'idées, elle décide de montrer montrer la réalité des déchets, mais pas dans un clip sur fond vert où l'on intègre en post-production des images tournées ailleurs. Donc, sa production va chercher sur la planète les plus grandes décharges, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie. Mais là-bas, le sujet dérange, les autorités freinent le tournage. Le seul accord vient du Sénégal, de Mbeubeus, où elle est allée tourner avec le réalisateur Grégory Aurel. Une décharge où les gens vivent, enfants compris. Le clip, il est où le SAV signé Suzanne avec Téméthane, qui pose sa voix aussi, la musique qui s'écoute et regarde le monde aussi.
Eh ben, allez l'écouter, allez le voir. Donc, sur la page de l'émission, Amélie, merci beaucoup. Et surtout, venez comme vous êtes, Nirvana, comme as you are. Comme as you are, nous dit Nirvana, bah avec Eva Bétan, c'est quand elle veut et c'est surtout, elle fait tout ce qu'elle veut de toute façon. Allez, c'est parti.
France Inter. Un jour dans le monde.
I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring.
I'm sure we're going to do good work.
La réussite de votre programme sera aussi notre réussite.
They won't let you do that.
Alors Eva, il avait filmé la dictature grecque, Costa-Gavras. Évidemment que tout le monde se souvient de Z. Il pouvait pas ne pas s'intéresser à la crise que vit la Grèce en ce moment et depuis longtemps. Le film s'appelle Adults in the Room. Il est signé donc Costa-Gavras, grand cinéaste franco-grec, évidemment. Et c'est pas un spectral sur la crise. Non. En fait, c'est un moment précis qui met en jeu, en cause l'Europe, puisqu'il est question de la tentative désespérée de renégocier la dette menée par le gouvernement de Tsipras. On est en 2015. Donc c'est encore le Tsipras gauche radicale, on va dire, et son ministre des finance, Yanis Varoufakis.
Alors, première chose, d'abord, on parle de cinéma, donc vous dire une chose, ce n'est pas rasoir. Si c'était un western, si vous voulez, ce serait sur le modèle, il y a celui qui a le fusil et il y a celui qui a la pelle et qui creuse, donc creuse. Je vous laisse deviner qui est-ce qui creuse. S'il y a un côté charme des films sur les coulisses de la politique, vous vous souvenez, vous avez peut-être vu un film formidable qui s'appelait In the Loop, et aussi des films qui, par le dispositif qu'ils mettent en place, vous permettent de comprendre des choses arides. Il y avait eu Cleveland contre Wall Street sur la crise des subprimes. Et donc, Adult in the Room de Costa Gavras. La crise est déjà là, la rigueur est imposée aux greffes, ils n'en peuvent plus, ils élisent la gauche radicale. Et qu'est-ce qu'on voit? Déjà, le réalisme de cette gauche radicale au pouvoir. Tout de suite, c'est pas le drapeau rouge, ils disent il faut renégocier la dette. Donc, on envoie voir Varoufakis. Et qu'est-ce qu'on voit? Réunion de l'Eurogroupe. C'est un mot chic, mais ça veut dire simplement la réunion des ministres de l'économie européen, donc ses pairs. Et on voit la violence des réunions. On peut dire à un pays, et ils le disent, mais demain, on vous coupe les vivres. Là, dans votre banque, il n'y aura plus un sou. Et ils craignent la banqueroute. On voit aussi comment on lui parle, comment le ministre allemand des Affaires étrangères, d'abord, a tout pouvoir, et à un moment donné, il ne lui serre pas la main. L'un lui tend la main, il ne lui serre pas la main. Christine Lagarde, dans ce film, est épargnée. L'expression adulte...
Ah, c'est pour ça, elle, l'expression
oui, adulte. Oui, elle leur dit, il y a un adulte là dans la salle, arrêté avec les jeux d'égo. Alors, on peut y voir que la loi du plus fort, la Grèce étant le faible, la Grèce aux abois, mais c'est plus complexe que cela. Écoutez Costa Gavras.
La catastrophe du côté du peuple est énorme. 500 000 Grecs sont partis, des jeunes, diplômés. Donc, c'est un appauvrissement énorme du pays. Et puis, les salaires sont très très bas. Et puis, les taxes sont très hautes. Et puis, comme les gens, ils n'ont pas d'argent, ils n'achètent pas. Donc, les magasins ferment. Et ça fait encore du chômage. Et des comptes du chômage. En plus, dans une telle économie, on ne peut pas payer une dette. Alors, ils commencent à tout vendre. Les aéroports, les plages, enfin, tout vendre. Et encore, ils n'arrivent pas à baisser la dette. Donc, c'est évident qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ils ont décidé, non. Et c'est les Allemands qui appuient ça à fond. On a décidé déjà de ne pas céder aux Grecs. Parce que d'abord, c'est un gouvernement de gauche radicale, on ne va pas faire des concessions à une gauche radicale. Parce que les autres gauches européennes, parce que c'est l'Europe quand même, et l'Europe, elle est conservative. Et les autres gauches vont en profiter. Donc il y a ça. Ensuite, on veut punir la Grèce qui avait fait des dettes extraordinaires et qui avait toujours triché avec l'Europe. Elle avait des faux chiffres. Et puis, on veut aussi faire un exemple. Enfin, tout cela fait qu'ils ont établi une stratégie qui ne tient pas du tout compte du peuple, de ce que souffre le peuple. Voilà le sens. Parce que ça n'est pas quand même des types violents, ça n'est pas des salauds qui veulent absolument... Non, il y a des raisons politiquement pas correctes, mais enfin précises.
Et ben, c'est pas divulgacher la fin du film que de dire que ça se termine mal pour la Grèce, évidemment.
Oui, et la Grèce ne fait plus la une des journaux, alors j'ai demandé tout simplement à Costa Gavras des nouvelles de son pays.
La dette est toujours au même niveau. Très très haute, après avoir tout vendu. Le chômage qui était de 28%, il est à 18%, 17%. Les salaires n'ont pas augmenté, les taxes n'ont pas baissé, et les 500 000 Grecs qui sont partis, diplômés, ils sont pas revenus. Alors, leur savoir-faire, il est utilisé dans d'autres pays, mais pas à la Grèce, dont il a grand besoin. Voilà, tout ça, c'est là. Et on ne voit pas comment ça va changer dans les 10 ou 15 années à venir. Voilà la situation. Bon, maintenant, il y a un gouvernement de droite qui va essayer de changer les choses, et je l'espère personnellement, qui va faire sortir le peuple de cette espèce de prison qu'est la dette et que le drame dans lequel il vit. J'espère profondément. Mais on va voir.
Voilà, Costa Gavras. Eva, ça s'appelle Adults in the Room.
Oui,
et c'est en salle ce mercredi. Exact. Merci beaucoup.
Fabienne Saint-Pès, le 18-20.
Le Monde à l'envers, signé Franck Madvon ce soir. Franck, cette semaine, un nouveau drame a mis en lumière la violence des cartels de la drogue au Mexique. 3 femmes, 6 enfants d'une famille de mormons américains ont été tués. Ça s'est passé au sud de la frontière avec les États-Unis. Les groupes armés qui sévissent dans la région sont montrés du doigt. En arrivant au pouvoir l'an dernier, le président López Obrador avait promis d'endiguer cette violence. Ben, c'est un échec total et c'est votre Monde à l'envers.
Oui, alors revenons d'abord sur ce drame de lundi dans l'état de Sonora au Mexique. Que ça permet vraiment, Fabienne, de prendre la mesure du niveau de violence dans la région. C'est donc une famille de mormons qui a été prise pour cible, les Le Baron. Il faut savoir que beaucoup de mormons américains ont émigré au Mexique au 19e siècle. Ils ont généralement la double nationalité. Les Le Baron sont connus dans la région. Ils militent depuis longtemps contre les cartels de drogue. Lundi, des femmes et des enfants de cette communauté circulent dans 3 véhicules en groupe pour des raisons de sécurité, justement, et ils vont tomber dans une embuscade. Les assaillants tirent sur une camionnette qui prend feu, puis ils s'emparent des deux autres véhicules retrouvés plus tard avec les corps sans vie de deux femmes et deux enfants. Bilan effroyable, on l'a dit, 9 morts, 3 femmes, 6 enfants, 8 blessés. Un garçon de 13 ans a pu sauver une partie de ses frères et sœurs après les avoir mis à l'abri et marcher 23 km en pleine nuit pour trouver de l'aide.
Et donc cette attaque est attribuée à un groupe armé local.
Oui, l'enquête est en cours, mais on sait que des groupes criminels s'affrontent dans la région. Le convoi des Le Baron a peut-être été pris pour un autre groupe armé. Il est probable qu'un cartel local soit responsable du massacre, peut-être même le plus célèbre de tous, le cartel de Sinaloa, longtemps dirigé par Joaquin Guzman, alias El Chapo. Guzman est aujourd'hui, on le sait, derrière les barreaux aux États-Unis, mais ces hommes continuent à faire régner la terreur. Le 17 octobre dernier, une ville est devenue un champ de bataille, Culiacán, dans l'ouest du Mexique. Des militaires et des membres de la garde nationale ont voulu arrêter le fils El Chapo, Ovidio Guzman, mais ils ont dû affronter une armée de criminels, mitrailleuses, lance-roquettes, 6 heures de combat, 7 soldats et un civil tués. Résultat, le fils Guzman a été relâché pour éviter un bain de sang. Victoire majeure donc pour le cartel.
Mais le président mexicain a défendu la décision de relâcher le fils d'El Chapo.
Oui, pour le président de gauche Andrés Manuel López Obrador, élu l'an dernier, on l'a dit, il faut changer d'approche et d'abord sauver des vies. Abrazos no balazos, des accolades et non des balles. AMLO, comme on l'appelle, propose d'en finir avec la guerre au cartel, lancée en 2006 par le président Calderón. Certes, des chefs ont été arrêtés, mais les gangs sont plus nombreux et la violence a augmenté. 300 000 homicides au Mexique depuis 2006. AMLO, lui, a créé une nouvelle garde nationale, mais il pense surtout que c'est d'abord en luttant contre la pauvreté qu'on met fin aux violences. Il veut développer l'économie, utiliser l'argent de la lutte anti-drogue pour des programmes sociaux. Pour lui, les jeunes ont besoin de perspectives pour ne pas tomber dans le crime organisé.
Mais cette stratégie, donc, Franck, ne fonctionne pas, ça marche pas ?
Ben non, près de 100 personnes sont tuées chaque jour au Mexique. C'est la statistique de l'an dernier et ce nombre ne va pas baisser cette année. Les réformes sociales, oui, mais il faut aussi une stratégie contre les cartels, ces mafias qui corrompent les milieux politiques. Aujourd'hui, les forces mexicaines manquent de moyens, les salaires sont trop bas. Les États-Unis pourraient être un recours. Ils aident le Mexique depuis des années. C'est dans leur intérêt pour limiter l'afflux de drogue dans le pays. Donald Trump a ainsi proposé de nouveau hier son soutien. Mais le président AMLO décline l'offre. Il défend la souveraineté de son pays et s'obstine dans une stratégie qui ne donne pour le moment aucun résultat et renforce les cartels.
Le monde à l'envers. Et Franck Madvon, merci beaucoup Franck. À demain, nous on continue le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. N'échangez rien, à tout de suite.